Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvelle Oeil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes, pour vous aider à trouver votre chemin et surtout, à oser. Grégory est une référence dans le marketing digital en France. De son état d'esprit à 20 ans jusqu'à sa décision de devenir indépendant, il nous partage ses cheminements, ses questionnements et ses conseils. Au fil de ses paroles, il nous peint sa propre définition du bonheur et du succès, loin de celle que l'on croit être. Il nous parle de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur nos vies, en bien comme en mal. On a aussi parlé de résilience, de ce fameux monde de demain, et de cette fâcheuse tendance à toujours être dans l'optimisation du temps. Mais je ne vous en dévoile pas plus, et vous laisse à la rencontre de Grégory. Salut Grégory, bienvenue sur le podcast.
Salut Victoria.
Tu m'as donné de précieux conseils quand je me suis lancée dans cette aventure, donc je suis très contente de te donner la parole aujourd'hui.
Bah merci, moi aussi je suis ravie d'être là.
Alors, est-ce que tu peux commencer par peut-être nous décrire un petit peu ta jeunesse, tes études? Tu sais, ce moment de vie où on se pose tous 40 000 questions sur notre avenir. Toi, tu étais dans quel état d'esprit à cette période-là?
Ben, en fait, moi j'ai une famille plutôt modeste. Donc, je viens de la cité, dans une famille où personne n'a fait d'études, ni mes parents, ni mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents ou quoi. Et et donc, enfin, mon frère a fait un CAP et en fait, venant de ce milieu social, étant métisse, etc., on a essayé de me détourner vers des CAP, des BEP. On a essayé pas mal de me décourager quand j'étais à l'école. Oui. Donc moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une dizaine d'années, je voulais être pilote de chasse. Évidemment, j'avais pas du tout le milieu social pour faire ce genre de choses. Et puis de toute façon, maintenant, je suis beaucoup trop grand, donc dans tous les cas, ça n'aurait pas marché. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai essayé de me contraindre dans ce qu'on essayait de me faire faire, tout en étant dans une forme de résistance. J'ai eu aussi pas mal de chance dans le sens où j'avais des amis qui me permettaient de sortir de ce milieu entre guillemets dans lequel j'étais. Et je pense que j'avais en tête de juste devenir commercial comme mon père. Et en première, j'ai commencé à être assez bon à l'école, donc ça m'a permis d'envisager de faire une prépa, parce que je savais même pas que ça existait en fait.
Oui.
Et c'était plus d'autres étudiants qui me donnaient envie et des professeurs qui continuaient à me dire que j'y arriverais pas en fait. Donc mon état d'esprit, il était un peu combatif, on va dire.
Oui, d'accord. Et donc tu savais pas quoi faire en fait quand tu avais 20 ans, tu avais pas d'idée précise de ce qui te plaisait et de comment tu percevais ton avenir.
Alors quand j'avais 20 ans, c'était un peu différent parce que j'avais fini ma prépa.
Ouais.
Donc c'était vraiment différent. Moi à ce moment-là de ma vie, je pense que ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les autres. Donc je m'intéressais beaucoup à la sociologie, aux sciences du comportement, etc.
Oui.
Donc moi c'est vers ça que j'avais envie d'aller. En même temps, je savais pas trop comment faire, mais j'ai fait une école de commerce en me disant, enfin une prépa et une école de commerce en me disant que ça reportait le problème entre guillemets sur ce que je voudrais faire plus tard. Ça t'ouvre des portes que je connaissais pas moi-même.
Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire. On leur dit va dans une école de commerce si t'as les moyens et puis si t'as un petit peu d'ambition, ça t'ouvrira toutes les portes quoi. Mais
bah ouais, les moyens, moi j'ai fait un prêt en fait. Moi j'avais pas les moyens, enfin mes parents ils avaient clairement pas les moyens, donc j'ai fait un prêt étudiant bêtement et je me suis donné les moyens. Et puis je travaillais aussi à côté, en particulier quand je partais en Angleterre, j'avais un job en parallèle.
D'accord. Donc tu as fait 5 ans après en école de commerce Ou 3 ans après prépa?
Ben non, 3 ans en fait. Okay. 3 ans après prépa, enfin 4 ans précisément parce que j'ai fait une année césure.
D'accord. Très bien. Et donc après tes études, ça a été quoi ton premier boulot?
En fait, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis sorti de l'école. Ma dernière année c'était en 2001. Et en fait, quand tu fais ton stage de 3e année, tu sors en mars et tu cherches du boulot en septembre. Et septembre 2001, donc c'est les tours jumelles, et il n'y avait plus de boulot. Mais moi, en fait, j'ai eu cette chance d'avoir fait une année césure, et la deuxième partie de mon année césure, je l'ai fait chez Nous, qui est un câble opérateur. Et en fait, ils ont beaucoup apprécié cette expérience, donc du coup, ils m'ont embauché avant que je sorte d'école. Donc, j'ai pas fait de stage de troisième année, j'ai eu un CDI en mars 2001. Ce qui m'a protégé entre guillemets pour septembre parce que j'avais plus besoin, enfin j'étais pas dans la crise comme là vont connaître les étudiants qui sortent en septembre 2020, ça va être aussi très compliqué. comme pour moi c'était le cas à l'époque.
Oui. D'accord. Donc tu as travaillé en entreprise pendant combien d'années parce qu'aujourd'hui tu es indépendant?
Ouais, en fait, j'ai fait 12 ans de salariat, 3 ans à peu près chez Nous. Donc qu'est-ce câble opérateur dont je parlais juste avant, où j'ai fait du marketing de conquête, du marketing client ensuite je suis allé chez dans une marque qui est pas très connue qui s'appelle Goldwell, qui fait des produits capillaires professionnels. Où j'étais là pendant 2 ans, où j'ai été fait du marketing stratégique, enfin produit en gros. Ensuite je suis allé chez Bouygues Telecom pendant 1 an, où je faisais du marketing offre également. Ensuite, je suis passé en agence. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon blog, en fait. Je suis passé digitale, où j'étais patron d'une boîte qui faisait de l'influence en 2006. Ensuite, j'ai pris la direction de la communication et la direction de la stratégie de cette même boîte. Ensuite, qui s'appelle Vanxen. Ensuite, je suis passé chez Neuron, qui s'appelle maintenant Sapiens, où j'ai monté un département médias et social media. Et ouais, après, j'ai été directeur de la com de l'agence également. Et puis, je me suis effectivement lancé en indépendant il y a 8 ans. Donc, en gros, ça fait 20 ans que je travaille.
Ok, d'accord. Et pourquoi tu as décidé d'être indépendant? J'ai cru comprendre que la liberté, c'était très important pour toi. Pourquoi avoir fait ce choix?
En fait, ça n'a pas été un choix évident parce que moi, j'avais peur. Et en même temps, quand j'étais chez Neuron, moi, j'avais déjà mon blog qui était relativement connu à l'époque, très connu en fait. Et les clients venaient pour moi à l'agence. Donc en fait, mon service avait été rentabilisé dès la première année, et j'amenais énormément de clients à l'agence. Tu vois, des gros budgets de plusieurs millions d'euros. Et en fait, je touchais aucune commission sur ça. Et je me suis dit, en fait, c'est idiot parce que quand t'es salarié, c'est souvent parce que t'as pas de clients directement. Sauf que moi, j'avais des clients directement.
Oui.
Donc en fait, j'avais complètement la possibilité, parce que je créais du contenu par ailleurs, de me lancer en indépendant et d'accompagner des marques qui de toute façon avaient envie de bosser avec moi. Ça n'a pas été une décision simple, ça m'a pris 2 ans de prendre la décision. Et j'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis lancé comme ça.
Super. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt?
Que tout est possible si tu travailles.
Si tu travailles. D'accord.
Je pense que ouais. Et en fait, il y a pas de secret. La réalité, c'est qu'il y a pas de secret, c'est que c'est énormément de boulot. Si tu veux réussir, souvent il faut travailler. Et même si t'es fils de, il faut bosser. En réalité, il y a pas vraiment de sujet là-dessus. Mais tout est possible. Tu peux rencontrer n'importe qui. Tu peux devenir spécialiste de ce que tu veux. Tout est envisageable si tu travailles.
D'accord. Et en tant que, donc je change complètement de sujet. En tant qu'expert du digital, j'aimerais avoir ton avis sur les réseaux sociaux. Quel rôle, quel impact tu trouves qu'ils ont sur les jeunes?
C'est une vaste question. Écoute, y a énormément de choses qu'on peut dire à propos de l'impact des réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Napoléon III, on avait un temps de loisir, donc un temps non travaillé en dehors de notre temps de sommeil de 30%.
Oui.
Donc en fait, on passait 70% de notre temps de vie éveillé à travailler.
Oui.
Ok. En moyenne. En France, en moyenne aujourd'hui, c'est 12%. Donc en fait, on s'en rend pas compte, mais on a énormément, énormément de temps libre. Tout ce temps libre, parce que on finit les études plus tard, parce qu'on est à la retraite, parce qu'on travaille moins, tout simplement, il a été bouffé, littéralement, par les réseaux sociaux. On s'en rend pas compte, mais on passe des heures là-dessus. Donc le premier impact, c'est celui-là. Le deuxième impact, c'est évidemment une forme de vulnérabilité très forte, parce qu'en fait, tu te compares aux autres, et on voit avec l'augmentation des, enfin la propagation des réseaux sociaux, l'augmentation du nombre de suicides des jeunes, et on peut faire la relation assez facilement. Donc ça, c'est le deuxième impact. Le troisième impact, il est positif. Il est évidemment sur l'accès à l'information, la capacité de se connecter avec n'importe qui, et ça, c'est, c'est super. Le quatrième impact, il est sans doute de avoir justement de s'enfermer dans une bulle et de pas se rendre compte que tu es complètement à côté de la plaque. Donc en fait, ça, comme tu t'entoures de gens comme toi, tu ne te rends pas compte, et les réseaux sociaux favorisent ça, tu ne te rends pas compte que tu es à côté de la plaque. Le cinquième élément, sans doute, qui est important de noter, c'est que tu peux manipuler les gens à travers les réseaux sociaux, et ça, c'est un élément que les gens ne comprennent pas ou pensent que ça ne les touche pas eux, mais en fait, ça les touche, et c'est aussi un élément qui est très important. En fait, on regarde mal le monde à travers les réseaux sociaux, et ça, c'est un vrai gros problème pour moi.
Et comment on pourrait justement utiliser ces réseaux sociaux à bon escient pour regarder le monde d'un angle plus juste ?
De la bonne manière.
Oui.
Je pense que d'abord, il faut réduire sa consommation sans doute, mais en fait, la problématique de la réponse que je vais te donner, qui est la maturité, c'est que la maturité, ça prend du temps. Donc quand t'es jeune, le problème, c'est que la maturité, tu l'as pas en fait. Donc même si tu penses l'avoir, même si tu dis « non mais je sais », en fait… Moi aussi, je sais, et moi aussi, je passe des heures sur les réseaux sociaux. C'est pas la question, et moi aussi, je suis manipulé par les réseaux sociaux. Moi aussi, je sais. Évidemment, je sais, j'explique, je forme des gens sur ce sujet. Et en même temps, tu n'es pas, à partir du moment où tu les utilises, c'est très compliqué de s'en abstraire. Donc, en fait, la seule manière de s'en défaire un tout petit peu, en tout cas pour ce qui concerne la manipulation, c'est de croiser l'information. Donc, de regarder les sources, extrêmement important, de chercher, de comprendre comment ça marche, ne pas prendre tout pour acquis, d'aller chercher vraiment les hoax et autres éléments sur Google quand tu penses que l'information n'est pas vraie, et de croiser, de s'intéresser à tous les avis, d'aller voir des gens d'extrême droite, d'aller voir des gens d'extrême gauche, d'aller voir des gens du centre, de vraiment piper entre guillemets l'algorithme des réseaux sociaux pour s'assurer que tu vas avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe, et idéalement après avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans le monde aussi, parce que évidemment nous on a une vision très pipée de ce qui se passe alors en ce moment aux États-Unis mais parfois aussi en France et pas trop dans les autres pays.
Alors on sort de nombreux jours confinés, qu'est-ce que cette période elle a représenté pour toi?
Une pause, alors il y a deux choses évidemment qui sont intéressantes, enfin trois on va dire. Au niveau sociétal, je trouve ça intéressant que on ait demandé et qu'on ait pu voir qu'on pouvait faire appuyer sur une pause, tout simplement. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir que cette crise, elle montre une maladie dans laquelle on est depuis longtemps, mais simplement, elle l'exprime. Le mot crise, il vient vraiment du grec, c'est un mot qui vient du lexique médical, qui te dit qu'en fait, c'est horrible parce qu'il y a effectivement la maladie qui se déclare, mais en même temps c'est aussi une chance parce que c'est la chance de pouvoir résoudre cette maladie.
Oui.
Donc en fait la crise c'est vraiment ça, et pour moi ce qu'on a vu c'est sans doute de manière assez évidente des problèmes dans lesquels on était depuis longtemps en tant que société. Donc en ça je trouve ça intéressant, ça veut pas dire qu'il va y avoir des actions tout de suite, qu'il va y avoir un monde d'après incroyable. Là pour l'instant on relance la croissance, donc on retombe dans les mêmes travers qu'avant, mais en tout cas ça c'est intéressant. Ensuite sans doute que les gens ont pu expérimenter quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui te manque le plus c'est le lien. Ça t'a permis de créer du lien à toi, mais de refaire du lien avec les autres, en particulier tes voisins, et d'expérimenter que ce qui te manque le plus c'est le lien avec ta famille, tes amis, etc., et pas avec une robe, un pantalon, des chaussettes, un t-shirt ou je sais pas quoi. Ça c'était intéressant aussi. À mon niveau individuel, moi ça m'a permis deux choses. Alors bien sûr il y a mon livre qui devait se lancer le 25 mars et qui a été reporté au 10 juin. Donc ça a été, je l'ai vécu de manière un peu difficile parce que c'est déjà, t'es déjà beaucoup en vulnérabilité quand tu lances un bouquin. Alors du coup, quand l'agenda change au dernier moment, ça te met dans une posture très compliquée. Mais bon, voilà. Et en même temps, c'est un bouquin sur le monde d'après quelque part, donc c'est intéressant qu'il ait été reporté à après. Et puis, ça m'a permis de me concentrer sur ce que j'allais vendre aux entreprises, mais aussi de réfléchir. Moi, ça fait un moment que j'ai envie d'aller habiter un peu plus loin, en tout cas de sortir de la ville et d'habiter un peu plus loin de la ville. Et c'est quelque chose que je réfléchis depuis très longtemps, enfin depuis quelques années en tout cas, et que je faisais pas parce que j'étais célibataire. Et là, je me suis dit, en fait, choisis-toi, donc fais-le tout seul, et on verra. Après, plus tard, c'est pas grave.
Oui.
Et se choisir, en fait, ça a été un élément important pour moi.
Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui a ressenti ce besoin justement de fuir un petit peu la ville pendant cette période de confinement et qui ont réfléchi à quitter la ville définitivement même pour aller s'installer en campagne.
Moi, je suis resté à Paris pendant le confinement. Je suis resté chez moi. Mais alors moi, j'ai pas eu de grand éclat de dire j'ai envie de vivre à la campagne parce que j'ai été confiné pendant 2 mois.
Oui, tu y avais déjà
réfléchi. C'était quelque chose qui était déjà présent. Simplement le truc c'est de le faire tout seul ou pas. Après il faut avoir les moyens de le faire évidemment dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de pas perdre son travail, etc., ce que moi je peux faire. Donc j'ai quand même cette chance assez hallucinante de pouvoir travailler à distance vu que je suis indépendant et que j'ai pas besoin d'aller à Paris tous les jours non plus.
Et comment toi tu pourrais l'expliquer justement ce phénomène de retour un petit peu à la nature?
En fait, tu te rends compte qu'on le cherche depuis longtemps. En fait, on a été déconnecté de la nature. Enfin, la connexion à la nature, on est la nature. L'humain est la nature aussi. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment déconnecté de la nature. On est déconnecté de la nature dans notre tête, pas dans notre corps. Donc, ça, c'est 2 choses qu'il faut bien séparer, le corps et l'esprit. L'esprit, lui, il est déconnecté de la nature parce qu'on a, avec la notion de progrès... et cette société moderne qui s'est installée depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui finalement, enfin en tout cas à la fin du XXe, essayer de chosifier tout, c'est-à-dire qu'en fait on a tout vu sous le prisme de la de l'utilisation pour l'homme. Tu vois, quelque chose qui est aussi écrit dans la Bible, c'est-à-dire que la nature est au service de l'homme. Mais c'est vrai que l'ère moderne l'a vraiment installée, donc en fait on s'est complètement déconnecté en considérant même son propre corps comme une machine. Je sais pas, tu vois cette expression qui est faut que je fasse bouffer la machine, etc., etc. Donc on est allé extrêmement loin dans ce mouvement de balancier, et en fait on est en train de revenir depuis une 20aine d'années, donc c'est pas quelque chose de nouveau, voire une 40aine d'années. Simplement ça met du temps à s'installer. On le voit avec l'arrivée des plantes dans les appartements. On le voit avec l'arrivée des matières premières, tu vois, le bois, le béton. Alors le béton c'est pas naturel, j'ai bien conscience, mais tu vois des matières un peu brutes qui arrivent dans les appartements. Et si tu regardes sur Pinterest ou simplement Instagram, tu vas voir que les appartements se ressemblent tous de ce point de vue-là. Tu vois, je pense à ce compte Instagram qui s'appelle Urban Jungle entre autres. Donc ce retour à la nature, il est là depuis longtemps. Et puis il y a cette étape supplémentaire de redécouvrir la nature et tu vois la magie de planter des graines et voir que ça pousse, la magie d'être tu vois simplement dans la nature, donc de revenir à cet état entre guillemets naturel. Ça s'explique comme ça. Je pense que la ville c'est une nécessité insupportable. Aujourd'hui, on est 70% en France à vivre dans des agglomérations. C'est nécessaire parce que c'est là qu'elle travaille. La ville a été pensée en fonction de la voiture, avec des lobbies assez forts autour, parce que la voiture, c'est aussi les routes, etc. Donc, et aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on revient comme un petit mouvement de balancier. De toute façon, on est en train de changer d'air de société. On appelle ça la société postmoderne, mais qui est en train de changer à plein d'égards, pas seulement dans un lien à la nature. Et c'est sans doute comme ça que ça s'explique. C'est-à-dire, on est allé trop loin dans un mouvement de balancier, donc naturellement, on revient. Et ça arrive à peu près tous les 400 ans, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau finalement en termes d'humanité.
Et quel conseil tu pourrais justement donner à ma génération, aux jeunes d'aujourd'hui, pour s'adapter au monde de demain qui va être très différent de celui d'aujourd'hui ?
Je sais pas s'il sera très différent parce que c'est des mouvements qui sont très lents.
Oui.
Tu vois, je te disais, ça fait 40 ans que c'est déjà en train de changer, mais en fait, on s'en aperçoit vraiment maintenant, et les 3 crises qu'on a vécues, c'est-à-dire 2001, crise de ta sécurité physique, 2008, crise de ta sécurité financière, et puis 2020, crise de ta sécurité comment on appelle ça, sanitaire, montre à quel point la société malade est en train de se transformer. Donc je sais pas dans quelle mesure, quand tu auras 40, 50, 60 ans, ça aura beaucoup bougé, mais néanmoins je pense que ce qui est important, c'est évidemment la résilience pour aller vers un monde sans doute sorti de cette vision très patriarcale. Moi, le conseil que je donne dans mon bouquin, c'est de faire un pas de côté, de d'embrasser une nouvelle spiritualité de société. Mm-hmm. Et j'envisage 8 éléments. Le premier, c'est de développer son féminin.
Oui.
Développer son féminin chez les femmes et chez les hommes. Comme on est dans une société patriarcale, en fait, les modèles, les rôles modèles féminins, souvent, ont réussi par de la puissance masculine. Ce que j'appelle la puissance masculine, c'est une puissance extérieure. Ça peut être de la force physique, ça peut être des apparats, enfin tout ce qui est extérieur, tandis que la puissance féminine, c'est toute cette puissance intérieure. Mm-hmm. Donc la vulnérabilité, la sensibilité, enfin tout ce que tu peux envisager d'intérieur. Et en fait, quand tu développes ton féminin, par essence, tu es déjà beaucoup plus dans la société de demain, et ça vaut autant pour les filles que pour les garçons. Mmh. Et pour moi, le débat féministe, il doit être positionné là, dans le développement du féminin, et il doit pas être positionné dans un combat entre les filles et les garçons. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, sans doute, de s'intéresser au chamanisme, pas tant pour prendre des substances hallucinogènes, mais tant plus pour essayer de comprendre comment d'autres font société. Sans jugement, sans se dire que notre manière de société est meilleure, ce qu'on a beaucoup cru pendant des années, mais se dire bah finalement il y a d'autres manières de faire société, ça peut être intéressant de regarder. Donc en fait, quand tu vois que l'Amazonie brûle par exemple, c'est très triste, mais en même temps pour les arbres, mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'on est en train de détruire des écosystèmes de gens qui vivent dans ces forêts et dont on a beaucoup à apprendre. Ensuite, c'est sans doute d'aller dans le développement personnel, pas tant alors bien sûr on y va souvent pour soi, donc d'une vision très individualiste, mais en fait le lien à soi, c'est la première étape pour aller dans le lien aux autres et le lien à la nature. Donc en fait, c'est important de se connaître soi, d'être bienveillant avec soi-même, et souvent le développement personnel y aide, la méditation aussi d'ailleurs. Souvent on se trompe au début, on lit des tonnes de bouquins, on pense qu'il faut tout lire. La question, c'est pas de tout lire, la question, c'est de comprendre et d'intégrer à l'intérieur de soi.
Mais quand on est jeune, pardon, excuse-moi, je te coupe.
Vas-y. Non, je t'en prie.
C'est difficile de se connaître quand on est jeune. Est-ce que tu aurais des conseils pour justement cette jeunesse qui se cherche, et comment au final on devient une personne entière?
Comment on devient une personne entière? Sans doute en embrassant ses ombres. En fait, on a des tonnes de contradictions, toutes et tous. On a des tonnes d'ombres, toutes et tous. Tu peux t'intéresser à Jung, parce que c'est lui l'expert du domaine, mais j'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet. Mm-hmm. Et plutôt que de les nier, plutôt que de dire que c'est pas vrai, plutôt que de pas vouloir les voir, il faut les embrasser. Mmh. Tu vois, en fait, l'idée, c'est de se dire, tu es Luke Skywalker, mais tu es aussi Dark Vador, et c'est pour ça que ça marche. Mmh. Et c'est pas grave, on est tous pareils. Et en fait, le problème, c'est quand on n'a pas conscience, ou quand tu essayes de dire, non, mais moi, j'essaye d'être parfait. Personne n'est parfait. Et je pense que ça, c'est un message qui est vachement important, parce que quand t'es jeune, on te dit pas nécessairement. Et ça met des années à mûrir, à comprendre qu'en fait, ce qu'il faut, c'est être bienveillant avec toi-même. Mm. Et ça, c'est vachement important. Par exemple, quand t'es dans une rupture amoureuse, ça prend du temps, en fait. Et c'est pas grave. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Moi, je suis sorti d'une rupture. Ça m'a pris 3 ans de sortir de cette rupture. Mm. Et c'est pas grave. Tu te dis, non, mais il faut aller mieux. Tes potes sont là au bout de 6 mois, disant, non, mais c'est bon. Et en fait, non. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Ça prend du temps et il faut accepter ce temps-là. Mm.
Oui. Mm-hmm. En fait, il faut accepter d'être différent et qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais je pense que c'est d'autant plus difficile à accepter dans cette ère d'instantanéité et où les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies, donc on en parlait tout à l'heure, mais je pense que pour les jeunes, on est sans arrêt dans la comparaison et au final à se montrer.
Mais tout le monde, c'est pas que les jeunes. Hein.
Oui, tout le monde, mais je pense que les jeunes, c'est aussi, enfin, c'est, je veux dire, c'est une période où justement on se cherche, etc. Et c'est, entre guillemets, d'autant plus dangereux de s'identifier à tout ça, quoi.
En fait, à partir du moment où tu développes ton féminin et que t'es pas dans ton masculin, il va être dans l'apparat, dans la vitesse, dans la force, dans tous ces éléments qui sont extérieurs. Dans cette, je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout. C'est pas la question. Mais à partir du moment où tu re-rentres dans ta force féminine, et encore une fois, ça vaut autant pour les garçons que pour les filles. En fait, tu rentres en toi. Donc, en fait, tu regardes, tu observes ce qui se passe en toi. Et ça, c'est vachement important de réussir à différencier, et en fait, c'est la seule manière, sans doute, de mettre de côté un petit peu le regard extérieur. L'idée, c'est pas de se dire je m'en fous de ce que pensent les autres, parce que oui. C'est jamais vrai. Même quand tu te positionnes comme à l'extérieur de la société, c'est une posture. Pour tout le monde, c'est vrai. Tu vois les gamins qui sont, tu vois, j'en sais rien aujourd'hui ce que ça pourrait être, mais tu vois, qui ont des habits différents, qui refusent d'être sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois, des postures un petit peu radicales. Tout ça, c'est des postures. En fait, ils se cherchent comme les autres. Alors après, moi, je suis pas psy, hein, évidemment, mais j'ai un peu vécu malgré tout. Et du coup, je vois ça, et puis je me suis regardé, je me suis observé. C'est vachement important de s'observer. Sans être auto-centré, c'est pas la question d'être auto-centré, mais juste de s'observer dans le bon et le moins bon. Et après, il y a sans doute être dans l'énergie, dans l'économie circulaire, donc de pas posséder, mais plutôt d'accéder. Oui. Sans doute d'être dans une forme de fluidité, de liquidité dans les générations, mais de liquidité de manière générale. Mm-hmm. D'être dans le slow et pas dans l'optimisation de tout. Ça me semble essentiel aussi. On essaie toujours d'optimiser son temps, de tout optimiser, de dire oh, écoute, moi je suis tellement occupé, etc. Je pense qu'à l'inverse, il faut être dans le slow. Le slow, c'est pas forcément d'aller lentement. Moi-même, enfin tu vois, je donne des cours dans des écoles de commerce. Je suis associé dans deux boîtes, dont une de blockchain, une de podcast. J'ai mon podcast. Je fais du conseil pour des très grosses boîtes. Je fais des tonnes de choses. Donc je suis pas en train de dire que je suis pas en train de fumer un spliff, en train de me dire que il faut rien faire et le ciel t'aidera, c'est pas ça. Simplement, il faut pas nécessairement être dans l'optimisation de tout et il faut avoir conscience de la qualité des choses, la qualité du temps que tu passes avec les uns et les autres. Tu vois, moi j'ai vécu à New York pendant un moment et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Tu vois, dans ce temple du FOMO, donc du fear of missing out, bah en fait c'est très difficile de passer une heure avec quelqu'un en tête-à-tête. À moins de pas avoir beaucoup d'amis, mais autrement, en fait, tu passes de soirée en autre. Tu vois, chaque soir, t'as 4-5 soirées et tu choisis laquelle tu vas faire, ou alors tu passes un quart d'heure, une demi-heure avec chacun. Ça, c'est la vraie vie de New York. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de pas aller là-dedans et d'être dans la qualité. C'est tout ça. Enfin, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui sont vraiment importants pour moi et qui te permettent de vivre le 21e siècle de la meilleure manière. C'est-à-dire que à partir du moment où tu comprends ces concepts, que tu les intègres, c'est pas qu'une question de les intellectualiser, que tu les intègres, tu vis de cette manière-là, ben en fait, tu vas devenir résilient par essence et tu vas naturellement surfer la vague qui arrive devant nous, en fait, tout simplement. Mm-hmm.
Mais dans nos vies, c'est rigolo parce que tu as un peu anticipé ma question, j'avais une question sur l'optimisation. Dans nos vies à 1000 à l'heure, en fait, comment on peut faire pour se contenter de ce que l'on a et arrêter d'être sans cesse dans l'optimisation? Est-ce que toi, tu as acquéri quelques petites clés, quelques tips?
Alors, ce qui est important de dire à ce moment-là, c'est que moi, je suis pas donneur de leçons parce que, en fait, moi, je suis aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis pas sorti complètement. Ça serait un mensonge de dire ça. Tu vois, moi, j'aime pas trop les donneurs de leçons en disant, ah, ta manière de vivre, c'est pas terrible, etc. Regarde-moi. Et souvent, en fait, c'est des gens qui ne vivent pas la même vie que toi. C'est-à-dire que c'est très facile pour quelqu'un qui a décidé, j'en sais rien, de vivre dans une forêt et d'élever des chèvres. Enfin, j'exagère un petit peu, mais. De se dire bah ouais, toi, la manière dont tu vis, moi je connais des gens qui sont comme ça, dans cette qui font quasiment un acte artistique de leur mode de vie minimaliste. Tu vois, moi j'ai une amie comme ça qui fait le choix de pas gagner d'argent alors qu'elle pourrait en gagner. Elle fait le choix de vivre dans 25 mètres carrés alors qu'elle a 45 ans et qu'elle pourrait vivre dans beaucoup plus. Elle fait le choix d'avoir 4-5 tenues mais pas plus. Donc voilà, et en fait elle est pas donneuse de leçons en l'occurrence, cette personne-là, mais tu vois, tu la regardes et tu te dis putain, c'est génial, mais moi j'en suis pas là, quoi. Et je pense que le conseil, c'est simplement d'avoir conscience. Enfin, ça paraît bête comme ça de dire ça, etc., mais souvent tu fais les choses sans réfléchir.
Oui.
Et simplement de prendre. C'est pour ça que la méditation, c'est important, mais je peux pas méditer en permanence. Moi, je médite tous les jours, mais tu vois, je médite un quart d'heure, une demi-heure. C'est pas une question de temps, d'ailleurs. C'est pas une question de performance, encore une fois. Juste sortir de cette idée de la performance. Et de se dire, ben, attends, moi, je m'écoute. Est-ce que vraiment j'ai envie de sortir ce soir? Est-ce que vraiment j'ai envie de boire de l'alcool? Tu vois, moi, j'ai pris du LSD, quand j'étais à Burning Man, l'été dernier. Et là, je me suis dit, ben, en fait, bah, évidemment, je prends pas du LSD tous les jours, mais là, vraiment, ça m'a fait réaliser à quel point l'alcool était pas nécessaire dans ma vie, donc j'ai arrêté l'alcool. C'est pas que j'ai arrêté complètement, c'est simplement, je me suis dit, ben, moi, dans ma vie, tu vois, de parisien qui est invité à des tonnes de soirées, ben, finalement, je bois quasiment tous les jours. Pas une tonne, hein, évidemment, j'ai jamais de problème d'alcool, mais un verre, deux verres, trois verres, tous les jours, sans aucun problème, voire, enfin non, pas midi et soir, mais au moins une fois par jour. Et en fait, je me suis dit, mais il y a plein de moments où, en vrai, j'ai pas spécialement envie de boire. Donc en fait, j'ai décidé de m'écouter, de me dire, ben, les fois où j'ai pas envie de boire, ben, je bois pas, donc je dis aux gens que j'ai arrêté de boire. Ce qui est pas complètement vrai, parce qu'il y a des fois où je bois. Mais ça arrive une fois tous les trois mois, et en fait, c'est pas grave. Et juste de s'écouter, de se dire, ben, oui, tu vois, au début, si tu dis non, mais en ce moment, j'essaie de réduire l'alcool, les gens vont te pousser, vont dire, allez, vas-y, bois un verre, nanana. Si tu dis, j'ai arrêté l'alcool, les gens, ils vont respecter le fait que t'as arrêté l'alcool. Ils vont partir du principe que tu as eu un problème avec l'alcool, peut-être. Mais c'est pas grave, c'est leur croyance et bon, c'est leur histoire. Mais simplement de, tu vois, et juste de s'écouter, en fait. Et parfois t'as envie de boire et parfois t'as pas envie de boire et c'est super. Parfois t'as envie d'avoir un plan cul, parfois t'as envie d'avoir une histoire longue et c'est super. Il y a pas de problème. L'important c'est qu'il y ait du respect pour toi d'abord, mais aussi pour du respect pour les autres évidemment.
C'est très intéressant.
Ben merci.
Donc j'aimerais en fait revenir sur ton livre Insoutenable Paradis qui va sortir prochainement. Et donc je l'ai pas encore lu, mais apparemment tu soulignes le fait que qu'on fait tous face à plein de paradoxes dans nos vies et que la société actuelle ne rend personne heureux finalement, ou peu de personnes. Donc pour toi, quels sont les plus grands maux dans nos modes de vie modernes?
Je crois que le plus grand maux de notre mode de vie moderne, c'est la définition qu'on a du bonheur et du succès, qui est en fait une définition. Tu vois, je parlais de manipulation tout à l'heure, qui est totalement manipulée par les médias, par le secteur artistique, par toute notre culture de société, en fait. Aujourd'hui, la définition du bonheur, donc elle s'associe au succès, c'est une forme d'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. En gros, tu te dis, si j'étais riche, si j'avais ci, si j'avais ça, si j'avais ce pouvoir-ci, si j'avais ce pouvoir-là, etc., etc. Et toute ta vie, tu peux poursuivre ce truc-là. Moi, je suis parti, je te disais, donc je suis un gamin de cité, donc j'avais pas grand-chose. Et maintenant, je suis avec, enfin, je connais pas mal de millionnaires parce que c'est lié à l'industrie du web. Et puis moi-même, je m'en suis plutôt bien sorti de ce côté-là. Et en fait, tu arrives là pour te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'en fait, le plus grand mot mal, parce que si c'est singulier, c'est un mal, de notre société, c'est sans doute ça, c'est-à-dire cette définition erronée de ce que c'est que le bonheur et de ce que c'est que le succès. À partir du moment où tu comprends que le bonheur, c'est pas l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent, mais qu'en fait, le bonheur, c'est de comprendre que ce que tu as, c'est super, en fait. À partir du moment où tu es dans le contentement et que tu te rends compte, toute chose par ailleurs, qu'en fait ta vie elle est géniale comme elle est. Et bien sûr que c'est discutable, et bien sûr qu'il y a des coups durs, et bien sûr que tu vois, c'est pas, enfin personne n'est heureux à 100% dans sa vie, c'est impossible, tu vois. Et heureusement parce qu'en fait, sinon être heureux ça serait ton normal, donc tu serais jamais vraiment heureux non plus, tu vois. Il faut qu'il y ait des variations naturellement. Mais tu vois, en fait on prend pour acquis des choses qui ne le sont pas. Par exemple, on est dans un pays où il y a pas de guerre, enfin. Tu sors de chez toi, tu vas pas te faire attaquer, tu vas pas te faire enfermer, il y a pas de problème. Et ben ça, en fait, tu prends pour acquis, mais c'est pas du tout un acquis, parce que pendant toute l'histoire de l'humanité, c'était pas le cas en fait, majoritairement. Tu vois, on est dans la plus grande période de paix en Europe, en France, dans les pays occidentaux en tout cas, depuis très longtemps. Tu prends pour acquis de pouvoir avoir à manger, de pouvoir, je te parle même pas de choisir ce que tu veux à manger, hein, mais juste de manger à ta faim. Tu le prends pour acquis, mais en fait c'est pas du tout un acquis. Donc en fait juste, et je sais que ça peut sonner un petit peu tu vois, New Age, etc., mais en vrai le bonheur c'est ce que tu espères du monde versus la réalité. Et plus tes attentes sont importantes, plus tu vas être déçu et moins tu vas être heureux. Donc à partir du moment où tu es heureux avec ce que tu as, tu peux jamais vraiment être dans le malheur. Alors bien sûr que t'as des coups durs, tu vois, si tu perds ton père, si tu, j'en sais rien, t'es dans une rupture amoureuse, si, peu importe le coup dur. Évidemment, tu vas être triste. Tout le monde va être triste. C'est pas la question. Le Dalai Lama, il sera triste aussi. C'est pas le truc. Mais c'est juste d'être dans cette forme de contentement qui te permet d'être beaucoup plus heureux et de et ça te permet aussi de, enfin en tout cas je sais pas si c'est ça te permet d'eux, mais en tout cas il faut être aussi dans l'arrêt de la comparaison. En fait, en particulier tu parlais des réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre c'est que évidemment, même si tu le sais, mais il faut vraiment en avoir conscience, tu vois, l'intégrer à l'intérieur, tu vois pas que ça reste dans ta tête, de se dire qu'en fait, c'est ce que montrent les gens sur les réseaux sociaux, c'est évidemment leur meilleure vie, c'est leur vie sous le meilleur jour, tu vois jamais l'intime, même s'il y a de plus en plus de gens qui partagent leur vulnérabilité, mais tu vois pas l'intime des gens, comme tu sais, peut-être quand t'es célibataire, tu regardes un couple et tu te dis putain, ça a l'air génial, mais moi aussi je voudrais être en couple, etc. Mais tu vois, moi avec le recul, je me rends compte que la majorité des couples que je connais, pardon, ils sont pas heureux. Il y a des problèmes. C'est jamais parfait.
C'est jamais tout rose, et oui.
Mais non, c'est ça. Tu vois, comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais je veux absolument, absolument, absolument des enfants parce que sinon ma vie n'aura pas de sens. Et en fait, tu vois, à 43 ans aujourd'hui, je me dis, j'ai toujours vraiment beaucoup envie d'avoir des enfants, mais si j'en ai pas, ben en fait c'est pas grave parce que ma vie elle aura un autre sens et en fait c'est autre chose. Les enfants c'est super, mais c'est aussi, enfin tu vois, tous mes potes qui ont des enfants ils te disent la même chose, c'est la meilleure et la pire chose qui peut t'arriver dans ta vie, parce qu'en fait tu ne vis que pour l'autre, enfin pour l'enfant, donc en fait tu mets de côté complètement ta vie. Et puis tu sais, toi t'as une vingtaine d'années, donc tu c'est d'autant plus prégnant pour toi, mais un enfant c'est en fait il est pas vraiment reconnaissant par rapport à ses parents, pas une tonne en fait, tu te rends pas compte, mais tes parents ils mettent de côté toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de vivre pour l'enfant. Et toi en fait tu vois, tu gueules, tu trouves que c'est pas assez, tu trouves que c'est pas bien, enfin peu importe et c'est normal, mais n'empêche que, et sans compter qu'il y a des gamins qui peuvent aller beaucoup plus loin, tu vois, dans la, enfin tu vois, tu sais jamais de qui tu vas, on dit que les enfants choisissent leurs parents, tu sais jamais vraiment précisément qui va arriver, tu vois, c'est une individualité, donc il peut y avoir plein de problèmes. Donc avoir des enfants c'est super, ne pas avoir d'enfants c'est juste un autre mode de vie, c'est autre chose, mais c'est pas moins bien, tu vois. Moi j'ai appris à accepter ça aussi, même si tu vois je suis un homme et c'est beaucoup plus simple pour moi et peut-être que j'aurai des enfants plus tard, mais en tout cas tu vois, juste être dans ce contentement de cette compréhension un peu globale et de pas s'apitoyer sur ton sort non plus et de pas comparer en permanence.
Très bien. Ben écoute, merci beaucoup, Grégory.
On est parti sur un podcast de développement personnel, en fait.
Ouais. Mais ça tombe bien parce que j'adore ça. Donc, j'espère que ça plaira aussi à mes auditeurs. On pourrait d'ailleurs continuer à parler encore un moment, mais c'est vrai que j'essaie de garder des formats courts. Pour mes jeunes auditeurs, donc on va devoir s'arrêter ici. Mais je les invite à se rediriger vers ton podcast s'ils veulent en découvrir plus sur ta personne.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Grégory.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Victoria. À bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.